partout au Québec. Vous écoutez l'effet Normando. Voici Nathalie Normando.
11h05, bienvenue à cette deuxième heure d'émission. Avant d'aborder notre prochain sujet, je vais vous faire la lecture d'un courriel de Luce. Mon fils veut se faire vacciner. Impossible d'avoir un rendez-vous avant 3 ou 4 semaines. Avant de frapper déçu à grands coups de nouvelles mesures, il faudrait que ce soit plus accessible. C'est un excellent point, Luce, effectivement. Oui, il faut rendre la vaccination obligatoire si on veut que les non-vaccinés reçoivent leur premier vaccin. C'est un sujet, il y a des sujets qu'on fait ensemble là, qui suscitent énormément de réactions. Ce qu'on a fait ensemble depuis une heure là, sur la contribution santé, c'est un sujet qui vous a fait énormément réagir. Le gouvernement, François Legault, hier, le premier ministre, a dit, écoutez, on va vous revenir là bientôt avec les détails de cette contribution santé. Fait que c'est évident qu'on va, revenir sur cet enjeu qui nous interpelle. Un homme condamné à 7 mois de prison pour avoir battu sa chienne, c'est un article paru dans le journal Le Devoir ce matin. Ça nous a interpellés. Et là, on change complètement de répertoire en vous parlant de la maltraitance à l'endroit des animaux. Notre invité pour nous guider, la docteure Caroline Kilsdonk. Elle est médecin vétérinaire et éthicienne. C'est une habituée de l'émission. Bonjour à vous, docteure Kilsdonk.
Bonjour, Madame Normando.
Heureuse de vous retrouver. Je confie à nos auditeurs en ouverture d'émission. C'est un sujet qui vient me chercher, comme on dit à bon québécois, là, qui m'interpelle énormément. Je suis très sensible à toutes ces histoires de cruauté envers les animaux. Et là, il faut féliciter dans un premier temps la SPCA de Montréal qui a fait en sorte, qui a enquêté sur ce cas de maltraitance après un signalement. C'est une chienne qui s'appelle Angie. Elle a été trouvée dans un état lamentable. L'homme qui a plaidé coupable à la Cour municipale de Montréal le 7 décembre dernier, a dans la vingtaine, il s'est attaqué à sa chienne violemment à 2 reprises. Il a obtenu une peine de 7 mois de détention. Il lui est également interdit de posséder un animal, d'en avoir la garde ou le contrôle et même d'habiter un lieu où se trouve un animal et ce pendant une période de 15 ans. Votre réaction comme vétérinaire sur, premièrement, c'est la question que je lance à nos auditeurs, est-ce qu'on est assez sévère envers ceux qui maltraitent nos animaux au Québec? Qu'est-ce que vous seriez tenté de répondre à cette question, Dr. Kilsdonk?
Premièrement, je veux faire remarquer la progression fulgurante, remarquable qu'on a fait dans le domaine depuis, moi je suis en mesure de dire depuis une trentaine d'années. Moi j'ai grandi sur une ferme et j'ai fait mes études en médecine vétérinaire, là, j'ai gradué il y a environ 30 ans. Je peux vous dire que l'évolution dans l'ensemble de la société et dans l'ensemble des milieux où il y a de la présence d'animaux, l'évolution est vraiment très, très grande. La préoccupation pour le bien-être animal est beaucoup plus grande qu'elle était il y a 30 ans. Il y a quelques années aussi, avec la nouvelle loi sur le bien-être animal, le MAPAC, le gouvernement, est venu nous dire que ça devenait une préoccupation de société beaucoup plus vaste. Et le statut de l'animal, hein, comme le statut juridique de l'animal, qui est reconnu comme un être sensible, a changé à ce moment-là. Alors, on a vraiment là, fait de très, très grands progrès. Je veux dire aussi qu'on doit être très fiers de ces progrès-là. Et puis aussi, je veux souligner l'importance de condamner des gestes comme ceux-là. Premièrement, pour protéger les animaux, ça c'est une évidence, mais il y a un autre enjeu, c'est le fait que la violence envers les animaux, la cruauté envers les animaux est reliée de très près à la violence envers des personnes. Alors c'est vraiment doublement important d'agir dans ces cas-là,
dans ce dossier-là. Qu'est-ce que vous voulez dire que la violence à l'endroit des animaux est associée à la violence à l'endroit des personnes? Qu'est-ce que ça veut dire pour vous?
Il y a beaucoup d'études qui ont démontré que les personnes qui font des actes comme ceux-là sur des animaux sont souvent aussi impliquées dans de la violence, soit familiale ou des actes, des agressions, des actes de violence envers des personnes.
Ah, c'est intéressant. Donc, il y a une corrélation entre les deux. C'est ça. Alors,
exactement. Peut-être que dans certains cas, le fait d'agir lorsque c'est sur un animal, peut-être, hein, peut prévenir d'autres types d'agressions par la suite. On l'espère. Mais en tout cas, une chose est certaine, c'est que ça envoie un message clair que ce genre de geste-là n'est pas acceptable, même envers des animaux.
Ouais, là je veux pas faire pleurer personne, mais il faut quand même que je j'explique à nos auditeurs comment cette jeune chienne a été affectée là. Elle a tellement été battue violemment qu'elle avait un de ses deux yeux était perforé, près de la moitié de ses dents était fracturée, puis elle avait une plaie ouverte sur le crâne. Rassurez-vous, elle était bien soignée dans un hôpital vétérinaire à Laval. Elle a été adoptée par une famille aimante aujourd'hui. Alors ça, il y a une belle vie pour Angie. À ça, c'est une bonne nouvelle. Mais au Québec, docteur Kisdunk, il y a énormément d'animaux de compagnie, là, les chiens, les chats. Je ne sais pas si c'est au Québec où on bat des records en termes d'animaux de compagnie, mais est-ce que la loi, selon vous, est assez... Vous avez témoigné de ces progrès, mais est-ce que la loi est assez sévère? Est-ce qu'on pourrait être encore plus sévère? Je vais vous donner un exemple, là. Le gouvernement de l'Ontario, je faisais une petite recherche ce matin, c'est tolérance zéro pour ce qui est de la violence à l'endroit des animaux. On peut encourir une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 2 ans, une amende pouvant atteindre 130 000 $ pour un particulier, 500 000 $ pour une personne morale dans le cas d'une première infraction et interdiction en vie de posséder un animal. Il y a d'autres sanctions également. Alors, est-ce qu'on ne devrait pas envoyer un message encore plus fort? Ça, c'est une bonne nouvelle que le tribunal ait condamné cet homme à 7 mois de prison. On dit que c'est une peine exemplaire en matière de cruauté animale, mais est-ce qu'on ne devrait pas encore aller plus loin, selon vous?
Bien, honnêtement, moi, ma perspective, là, moi, je me penche beaucoup sur l'ensemble, ce qui me passionne, là, c'est l'ensemble des enjeux de société qui concernent les animaux et le côté éthique de ces questions-là. L'enjeu légal, à mon sens, quand on a une condamnation comme celle qu'on voit dans ce cas-là, à mon sens, le message au public est clair. Il y a une condamnation claire qui démontre que l'ensemble de la société québécoise réprouve ces comportements-là. C'est sanctionné. Je pose la question, est-ce que la durée de la peine a un impact majeur sur le message qu'on envoie aux personnes qui pourraient faire de tels actes à l'avenir? Je ne le sais pas et c'est pas ma spécialité. Alors, je me sens pas en mesure, moi, de commenter à savoir si on devrait être plus ou moins sévère. Mais, par contre, je suis en mesure de dire que le message est très, très clair, là. Et puis, ce qui est le plus extraordinaire, c'est le fait que la personne condamnée ne pourra pas avoir sous sa garde d'autres animaux pour, je crois que c'est 15 ans. Alors ça, oui. Là, ça vient vraiment protéger là, de d'autres actes là, qui pourraient être commis dans le futur.
Mm-hmm. Réaction de nos auditeurs, si vous permettez, Dr. Kisdunk, Alain nous écrit, il devrait y avoir un permis pour adopter un chat et un chien. Ce n'est pas tout le monde qui sont capables d'avoir un chien, car ceux-ci sont très demandants pour un maître. Les chats sont plus indépendants. Il a tout à fait raison. Pierrette nous écrit, oui, il faut être plus sévère avec ceux qui maltraitent les animaux. Ce sont des êtres méprisables de s'en prendre à des animaux, tout comme les enfants sans défense et criminels doivent faillir par la prison et ne plus jamais avoir le droit de posséder des animaux. Il y a un auditeur qui a dit, bien, écoutez, les animaux sont mieux traités au Québec souvent que nos personnes âgées. Dans certaines situations, vous avez tout à fait raison, mais dans peu importe le cas de figure de maltraitance, ce soit l'endroit de nos aînés, à l'endroit d'une femme, d'un enfant, d'un animal, on devrait effectivement, les peines devraient être très sévères et exemplaires. Vous alliez dire quelque chose, Dr. Kisdunk?
Ah oui, au sujet de votre premier commentateur, des gens disent on devrait avoir besoin d'un permis. En tout cas, une chose est certaine, c'est qu'une petite formation de base. Moi, je ne crois pas que ça coûterait une fortune de mettre en place une formation de base qui serait accessible à tous pour avoir un animal de compagnie, pour que les gens soient plus sensibilisés aux besoins d'un animal avant d'en avoir un. Là, on est un peu sur un autre terrain que votre question de départ, parce que on s'entend que c'est pas un cours de formation de base avant d'avoir un chien qui aurait changé le comportement de cette personne-là là, qui a battu sauvagement son chien. Par contre, ça viendrait peut-être responsabiliser l'ensemble des propriétaires d'animaux, éviter beaucoup d'abandon. Ça contribuerait à réduire le problème.
Ah oui. On va aller joindre, si vous permettez. Je viens d'avoir un courriel qui est un peu troublant, mais je ne sais pas si je vais le lire, mais enfin, il y a une auditrice, Isabelle, qui souhaite s'exprimer sur le sujet. Je vous rappelle la question, est-ce qu'on est assez sévère envers ceux et celles qui maltraitent les animaux? Une peine exemplaire vient d'être confirmée par un tribunal, un jeune dans la vingtaine qui a battu deux fois violemment sa chienne, qui est condamné à 7 mois de prison. Bonjour à vous, Isabelle.
Bonjour, Mme Normandeau. On est, pour répondre à votre question, on n'est certainement pas assez sévère au Québec face aux animaux qui sont maltraités. Moi, ma réflexion, ma question, c'est ce matin, je me promenais sur Facebook et là, j'ai été, en bon Québécois, fabuglacée de voir les réactions des gens. Souvent, c'est des réactions très violentes, là, tu sais, genre, je leur fais subir la même chose et tout ça. Moi, ma question, c'est on réagit très, très fort quand c'est des chiens, des chats, des animaux qu'on appelle domestiques, mais on n'a aucune réaction où les gens nient ou tombent dans l'agressivité, en fait, quand on leur parle, par exemple, de l'industrie des œufs qui broie des poussins vivants, de l'industrie du porc qui castre et édente des porcelets à vif ou les transporte à des températures, tu sais, comme hier, là, à moins 30, il y avait des camions, là. Moi, j'en ai croisé sur la route. Fait que, tu sais, la maltraitance animale, moi, je milite contre ça, mais je me questionne à savoir est-ce que cette maltraitance animale-là éveille les passions seulement pour les animaux domestiques ou parce que moi, pour moi, un animal, chien, chat, cochon, ça souffre pareil, là. On va se dire, il n'y a pas...
Absolument, absolument.
Donc, comment ça se fait qu'on réagit comme ça, aussi violemment quand c'est un chat, un chien, mais que quand c'est un cochon, un poussin, un lapin, ben là, tout d'un coup, ben ça devient comme, ben oui, mais tu sais, il faut bien manger, il y a toujours des bonnes raisons à ça. Donc, moi, c'est un questionnement que je serais intéressée d'entendre votre avis là-dessus.
Oui, ben absolument, Isabelle. La violence, je sais pas si on peut parler de violence industrielle. Il faut aller à la pause, docteur Kisdon. Vous avez certainement une opinion sur ce sujet.
Oui.
C'est un excellent point de vue de la part d'Isabelle. En canicule, même, on voit des camions sur l'autoroute passer avec les cochons qui s'en vont à l'abattoir. Richard nous écrit qui au pet shop va savoir s'il n'a pas le droit d'avoir un animal. Pour lui, il faut abolir les pet shops. Pas les pet shops, mais abolir la possibilité pour ce genre d'entreprise de vendre des animaux domestiques. Moi, je suis d'accord avec vous, Richard, je suis de votre école. On devrait autoriser uniquement les refuges accrédités. C'est dans les refuges qu'on devrait pouvoir se procurer des animaux domestiques. Oui, on va à la pause. Je poursuis avec vos réactions. Est-ce qu'on est assez sévère au Québec envers ceux qui maltraitent les animaux?
Partout au Québec, la parole est à vous. Pour participer à l'Effet Normando, 1-866-790-9850 et sur le web.
Julie nous écrit, je suis convaincue que ça va vous faire réagir parce qu'on parle de maltraitance à l'endroit des animaux. Souvent, je vois un chien obligé de courir derrière un vélo, inacceptable, inhumain. Moi aussi, j'ai déjà vu ça, Julie, des gens qui s'entraînent. Le chien court. Est-ce qu'il court par plaisir? Je sais pas. En soi, ce genre de commentaire, je suis certaine que ça va vous faire réagir. Si vous courez avec votre chien ou si vous faites du vélo avec votre chien, peut-être vous pourriez nous appeler pour nous dire ce que vous pensez de cette pratique. Je reviens à notre invitée, Dr. Caroline Kingsdong, qui est médecin vétérinaire, sur la violence industrielle. Isabelle nous appelait avant la pause la violence à l'endroit des poussins, des poulets, dans les abattoirs, les porcs. Qu'est-ce que vous pensez de ça, Dr. Kisdunk?
Oui, ben, je vais commencer par votre chien derrière le vélo. Chaque cas est unique. Chaque cas est unique et il faut voir en fonction du besoin d'activité et de la vitesse pour chaque animal. Là. Il s'agit de voir si le propriétaire s'adapte au rythme de son chien. À propos de l'industrie, je vais la diviser en deux. Première chose, je veux rassurer les gens, c'est vrai que l'indignation populaire est parfois différente, mais les mêmes gestes qui ont été commis sur ce chien-là, s'ils avaient été commis sur un animal de production, auraient été aussi condamnables. Ah, ça, okay. Je veux vous rassurer, là, du côté des lois, des gestes comme ceux-là sont condamnables. Mais effectivement, il y a des différences quand même dans la réglementation. Par exemple, là, le fait qu'on permet évidemment l'abattage quand c'est pour la production de viande, par exemple. Il y a certaines pratiques aussi qui sont permises, qui sont différentes et qui sont exclues de la loi.
Mais on pourrait faire davantage, là, honnêtement, docteur Kesdonk, là, je veux dire, castrer édenter des porcelets à froid, ça n'a pas de bon sens, là. Promener des cochons à moins 30 à plus 30 sur la route l'été,
je suis tout à fait d'accord avec vous.
Ça n'a pas de bon sens.
Je suis tout à fait d'accord avec vous. Je veux juste dire que les mêmes gestes là, de violence volontaire là, pour faire mal et blesser auraient été condamnables. Il y a certaines pratiques qui impliquent de la souffrance d'animaux qui sont acceptées, comme par exemple la castration dont vous parlez. Ces castrations-là ne sont pas pratiquées par des médecins vétérinaires et donc de ce fait n'impliquent pas non plus une analgésie qui est satisfaisante. Alors effectivement, il y a certaines pratiques qui sont exclues de la loi sur le bien-être animal parce que c'est dans l'industrie. Les codes de pratique de chaque industrie s'améliorent à chaque édition, apportent des améliorations au bien-être des animaux. C'est pas nécessairement satisfaisant pour tout le monde et ça continue à inclure certaines pratiques qui peuvent amener de la souffrance. Mais je vais vous donner un exemple. Il y a 30 ans, on enlevait les bourgeons de corne là, aux veaux à froid. Et puis, il y a environ, justement, là, 30 ans, on a commencé à avoir la pratique d'amener une analgésie et de brûler les bourgeons. Et maintenant, ça fait partie des obligations dans les codes de pratique des producteurs de faire une analgésie là, pour enlever les bourgeons de cornes pour que les animaux n'aient pas des cornes qui vont pousser quand ils vont vieillir.
Bien, ça témoigne que les choses peuvent s'améliorer, mais honnêtement, je pense
exactement
qu'on a encore du chemin à faire au Québec.
Puis pour le transport, il y a aussi des normes par rapport à la durée et aux températures ambiantes, que ce soit la chaleur ou le froid. Mm-hmm. Malheureusement, le problème est souvent le respect de cette réglementation-là qui est déjà existante.
Voilà. Oui, effectivement. Moi, je me situe moi, je suis personnellement sur toutes ces questions-là. Je suis j'ai un point de vue extrêmement arrêté là. J'ai pas de zone grise là-dessus là. Je suis très, 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 très drastique. En Suisse, semblerait que ça prend un permis pour avoir un animal domestique.
J'essaie de donner de l'information.
Oui, c'est parfait.
Sans en cacher.
Oui, mais c'est pour ça que vous êtes avec nous. Ensuite, j'allais vous dire, un auditeur nous écrit, on laisse pas n'importe qui adopter, ça prend un permis. Et il y en a un témoignage là, d'une dame qui est très préoccupant par rapport à une éleveuse de chats de Bengale. Si vous êtes témoin de cruauté à l'endroit des animaux, là, faites une plainte auprès de la Société protectrice des animaux de votre région. Ils vont intervenir. Là. Vous allez me dire qu'ils n'interviennent pas, mais c'est possible d'intervenir ou à la limite appeler la police si vous voyez un élevage illégal. Il y a des choses, des gestes qu'on peut poser pour sauver nos animaux. On va aller joindre à la rencontre de deux auditrices, si vous permettez, Dr. Kesdonk. Dans un premier temps, Lynn, bonjour à vous. Bon mercredi.
Oui, bonjour. Moi, je suis... C'est pas assez la cruauté.
Les lois,
oui,
c'est ça.
Je me demande, là, cette personne-là n'aura pas le droit de posséder un animal avant 15 ans. Qui va avoir le contrôle et le suivi sur ça?
Oui, c'est un bon point. C'est un excellent point.
Hein? Ils vont-ils aller chez eux pour voir si elle a un animal ou quoi, là?
Est-ce qu'il y aura une espèce d'agent de probation qui va faire le suivi? C'est un excellent point.
Oui.
C'est un excellent point. Et quand j'étais présidente de l'Ordre des médecins vétérinaires, on a fait des représentations pour qu'il existe un registre national des animaux de compagnie.
Okay.
Ce qui serait plus simple pour les chiens que pour les chats, vous en conviendrez, mais qui serait certainement très utile aussi dans tout le problème des chiens dangereux, mais qui serait aussi utile là, pour les questions de bien-être animal. Présentement, en l'absence de tel registre, il y a beaucoup d'interventions et de suivi qui sont difficiles à faire.
OK. Donc, merci beaucoup.
Question, la question est très pertinente.
De Lynn, absolument. Merci beaucoup, Lynn. Il y a Manon maintenant qui souhaite s'exprimer. Bonjour, Manon.
Bonjour. Bonjour, Nathalie.
Moi,
je suis d'accord avec les intervenantes antérieures, là, à savoir, je suis contre toute forme de maltraitance et de violence envers les animaux. Les animaux sont, comment dirais-je, sont notre continuité, sont notre pendant, c'est comme s'ils faisaient partie de nous, hein, les animaux.
Absolument, et, vous avez tout à fait raison.
Par sarcasme, je pourrais dire que c'est l'animal humain qu'il faut dompter.
Vous avez absolument, oui, sauf si vous avez raison.
Et
oui,
mon point avant de terminer, c'est que je suis une personne pauvre, je suis une personne dans la soixantaine. J'ai toujours eu un minou ou deux à la maison. Et le permis, je suis tout à fait contre le permis. Ce n'est pas parce que quelqu'un a de l'argent qu'il est bien intentionné, et c'est pas parce que quelqu'un est pauvre qu'il est mal intentionné. Voyez-vous? Alors, l'argent ne doit pas acheter tout. Voyez-vous?
Okay, mais,
je n'aurais pas les moyens, moi.
De là, la complexité de la question du permis, quand quelqu'un en a parlé tantôt, moi, j'ai plus répondu avec de l'éducation et de la formation qui soit accessible. C'est ça, en réalité, qui serait vraiment important. La technicalité d'un permis et un bout de papier, si ça ne s'accompagne pas d'autre chose, ça ne vaut pas grand-chose.
Ouais, mais en même temps, merci beaucoup Manon d'avoir appelé. En même temps, lorsque tu lis, tu vas sur le site internet là pour ce qui est des mesures de la loi qui protège les animaux en Ontario, c'est tolérance zéro pour la cruauté animale en Ontario. Alors, il faudrait, je pense qu'au Québec, dans un premier temps, avoir des signaux un peu plus clairs, tu sais, des messages de fermeté à l'endroit des autorités pour ce qui est des animaux. Mais en même temps, je vous dis ça, Caroline, et je suis consciente qu'il y a un million d'autres priorités pour un gouvernement. Hein? On est en pandémie.
Écoutez, j'en suis consciente aussi, et surtout, c'est depuis, non seulement depuis 2 ans, mais je vous dirais même... Au cours des derniers mois. Alors, en bout de ligne, tout est une question de ressources et beaucoup de ressources humaines. Alors, combien on en met dans chaque enjeu de société? C'est une question d'équilibre, là, vous le savez certainement autant que moi. Et c'est pas des questions simples. On voudrait bien faire partout.
Oui, on va aller joindre Alain, notre dernier auditeur, pour ce sujet sur la cruauté envers les animaux. Bonjour Alain.
Bonjour Nathalie. Écoutez, moi, je peut-être d'abord, oui, effectivement, je trouve que faut dénoncer la maltraitance auprès des animaux. Moi, je trouve qu'il y a un organisme qui s'appelle le Club Canin Canadien qui pourrait très bien aider, disons, pour faire de la formation. Tout l'organisme est en place. Il y a des gens parmi cet organisme-là qui sont très compétents. Pas parce que j'en fais partie que je dis que je suis compétent, mais j'en connais beaucoup de gens, puis les gens sont disponibles. Il y en a partout à travers le Canada, il y en a assurément partout à travers le Québec qui sont là et qui pourraient très bien être disponibles pour justement soit faire la formation, soit faire un suivi. Enfin, bref, je ne sais pas si vous voyez ce à quoi je vais en venir.
Oui, tout à fait. Bon, parfait, compenser le manque de ressources qu'on a.
Exact. Je trouve que les gens sont là, les gens ont des diplômes, c'est qu'ils donnent des diplômes aux gens qui sont qualifiés, ils ont été jugés, c'est pas juste des petits diplômes bonbons, permettez-moi de le dire, là. Je trouve que la ressource est là, et ça aiderait grandement, je trouve.
Merci. Bref, beaucoup. Voilà,
de quel type de diplôme vous parlez, monsieur?
Pardon?
De quel type de diplôme vous parlez?
Écoutez, il y a différents types de diplômes. Il y a des gens qui suivent des concours d'obéissance, il y a des gens qui suivent des concours, il y a des diplômes qui sont donnés à des chiens qui doivent suivre, par exemple, un diplôme être un bon voisin, c'est-à-dire qu'est-ce que le chien est évalué sur est-ce qu'il sait bien se comporter en public,
Je connais ces certificats-là, là, mais c'est votre appellation diplôme là, qui m'intriguait.
D'accord. Merci, cette précision. Mais merci.
Effectivement, la certification en particulier de bons citoyens canins est quand même très pertinente là, pour tout chien de compagnie. je pense pas qu'on peut obliger tout le monde à les suivre. Et puis, c'est sûr qu'il y a des objectifs différents aussi là, quand les gens veulent faire de l'exposition avec leurs animaux et tout ça, des concours d'obéissance. Il s'agit d'adapter ça aux gens qui veulent simplement avoir un bon animal de compagnie. Là.
Oui. Merci beaucoup, Dr. Caroline Kilsdong, médecin vétérinaire éthicienne, pour vos lumières sur cette question touchant la maltraitance envers les animaux. Conclusion, on a fait des progrès, mais il y a encore beaucoup de choses à faire. Plusieurs autres gestes qui pourraient être posés pour qu'on ait effectivement des lois qui protègent davantage nos animaux. Merci, excellente journée à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir. Après la pause, un sujet un peu plus léger, celui de la télévision, de vos séries préférées. En fait, spécifiquement, on parlera de la série District 31 qui va disparaître de nos écrans. Comment pensez-vous remplacer District 31? Vous êtes peut-être fan, c'est peut-être votre série fétiche. Ça serait intéressant de vous entendre là-dessus.